C'est l'heure de votre émission La Bouche Haute sur les ondes de Radio Galaxie. Cette émission vous est présentée par notre baroudeur Christian Cayol. Bonjour Christian.
Et bonjour Francis.
Alors, tu nous amènes sur une contrée que je ne connais pas et qui s'appelle peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Quel est cet endroit bien mystérieux?
Alors aujourd'hui, on va faire un grand écart plein nord, 1000 km. Je vous emmène en Haute-Normandie.
Carrément. C'est la France, ça, là-bas, encore, là-haut.
tu sens pas cette air de Manche, ou plutôt ce parfum de Chanel, ou Chanel, puisque c'est tel est le titre de la vidéo, parfum de Chanel avec deux N, référence à la Manche.
D'accord, voilà, on comprend.
Alors,
mieux.
Nous allons suivre, je vous amène, on va commencer par se diriger plein nord vers la Seine, jusqu'à Giverny, puis on va longer en descendant vers les belles boucles de la Seine, en s'écartant ensuite, aussi bien à gauche vers le Marais Vernier, qu'à droite vers la fameuse côte d'Albâtre, jusqu'à Étretat, que tout le monde connaît. Mais avant de commencer, un petit mot sur la vidéo. Comme tu as dit en introduction, les Normands n'aiment pas se mouiller, et quand on demande s'il fera beau demain, ben peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et si on veut un raccourci de la météo, on peut dire que parfois, on a des averses entre les orages.
Voilà, donc c'est très clair.
Pas besoin de décès. Alors, autant ici à Toulouse, quand on regarde le ciel, le matin on se dit, aujourd'hui, on sait à peu près le temps qu'on aura pour la journée, à peu près la journée. Là-bas, c'est la demi-heure qui suit. C'est difficile de trouver la bonne tenue, on a toujours une giboulée de retard.
Donc alors, il vaut mieux prévoir plusieurs tenues.
Mais c'est pas étonnant si les pelouses sont aussi vertes. Par contre, on peut parfois avoir un bel éclairage et arriver à faire l'image que l'on veut avec un beau ciel, ce ciel bien bleu avec des nuages, de beaux nuages blancs. Parce que le ciel, il est beau, il n'est pas beau quand il est tout bleu. Il est beau quand il y a quelques nuages, mais pas trop et surtout pas quand il pleut. Mais combien de fois j'ai dû recommencer des images que j'avais faites précédemment et être obligé d'y revenir deux, trois fois au même endroit parce que je n'arrivais pas à avoir l'éclairage, ne serait-ce qu'un coin de ciel bleu. Et alors des fois, j'ai raté un joli ciel ou j'ai raté un bel éclairage sous des nuages. Parce que j'avais l'impression de galoper tout le temps et d'être tout le temps à la bourre et de peur d'arriver trop tard en me disant « Le ciel est beau, j'ai 10 minutes pour arriver là, est-ce qu'il va tenir ?» Et j'ai galopé pendant une semaine et en plus qu'il m'a fallu, comme je disais tout à l'heure, recommencer des images.
D'accord. Voilà. Ça t'a maintenu en forme, quoi.
Oui.
C'est pas tout rond.
Par contre, je dois dire que j'en garde un souvenir. Vraiment, c'est une belle région. On y a passé 8 jours, comme je dirais à la fin. Il faut minimum ça. On n'a pas tout fait, bien sûr, mais on a galopé pendant 8 jours. C'est très, très riche et très varié.
Voilà, tout ça compense, on va dire, le temps qui peut être incertain.
Exactement. Oui. Bon, mais il faut faire avec. Hein. C'est comme ça.
Bien sûr,
mais
bien sûr.
C'est pas comme chez nous. Comme je disais, le matin, si on se lève, qu'on voit un ciel bas, gris, pluvieux, bon, on se dit c'est cuit pour la journée. Là-bas, c'est pas du tout ça. On peut avoir ça une demi-heure après, on peut avoir un beau passage ensoleillé.
Voilà, donc le conseil, en fait, pour nos auditeurs, c'est que s'ils vont là-bas, même si le temps est incertain, qu'ils n'hésitent pas à faire ce qu'ils ont prévu. S'ils ont prévu de visiter quelque chose, ils y vont, ils verront bien sur le moment.
Oh, mais ça m'est arrivé, combien de fois ça m'est arrivé, même de rester par exemple à Château-Gaillard, on en parlera tout à l'heure.
Oui.
Château-Gaillard, il est sur un éperon rocheux. Du bas, pour monter en voiture, il faut 10 minutes, il y a toute une boucle à faire. En bas, il y avait un éclairage, les ruines, elles brillaient de soleil. Oh, et avec un gros nuage noir au-dessus, c'est une lumière rasante. Je me dis, il faut arriver là-haut. Le temps qu'on arrive là-haut, c'était tout couvert. On a attendu que ça se lève et puis demi-heure après, on s'est dit, bon, tant pis, on reviendra. Et effectivement, on est allé voir ailleurs et puis on y est revenu. Un autre jour, on n'a pas eu la même chose, mais bon, il faut faire ça, oui, mais c'est un petit peu, la Bretagne c'est pareil, hein. C'est un peu comme ça, le mauvais temps ne dure pas bien longtemps, mais il arrive souvent dans la journée, on peut avoir les 4 saisons dans la même journée.
C'est ce qui fait le charme de nos régions en France, c'est que rien n'est pareil, que ce soit au niveau du décor, au niveau de la météo, au niveau de tout.
Moi qui bouge beaucoup, la France, je la trouve très belle, oui, je la trouve très belle, très variée. À 50 km d'écart, c'est pas pareil. Toutes les régions sont différentes et très riches, mais chacune a son identité.
Alors maintenant que tu nous as mis l'eau à la bouche, par quoi on commence?
Alors je vous emmène pour commencer, je vous emmène à Giverny. Giverny, c'est un petit village sur les bords de Seine, où a vécu Claude Monet, que l'on ne présente plus, grand peintre impressionniste, connu dans le monde entier, et il y a vécu pendant 43 ans. Alors c'est sa maison et son jardin, enfin ses jardins, jardin de fleurs, jardin d'eau, des jardins qui sont de véritables œuvres d'art. Alors surtout ce qui est bien, c'est que son jardin, sa maison, sont dans l'état où il a vécu. Rien n'a changé, tout est pareil. Alors il y a énormément d'étrangers, c'est très fréquenté, nous on y était fin septembre, il y a encore beaucoup de monde, beaucoup de Japonais, ça regorge de fleurs, même fin septembre alors qu'il n'y a pratiquement plus de fleurs dans les jardins, là-bas c'est encore, il y a des couleurs magnifiques, et puis ces fameux nymphéas, ces nénuphars, parce qu'il y a un petit ruisseau qui a été aménagé, ces fameux nymphéas, tout le monde de prendre les photos là, c'est... Mais bon, pour moi, c'est un des jardins les plus beaux de France, tout au moins c'est celui un de ceux que je préfère. C'est dans l'état, c'est ça. Et alors Giverny, donc c'est un petit village, aménagé, parce, vu le tourisme, la quantité de tourisme qu'il y a, il y a des parkings, il faut traverser le village, une rue piétonne, pour aller du parking où on veut aller, à la maison de... Mais le village est à l'image du jardin de Monet. C'est-à-dire que de part et d'autre de cette rue piétonne, vous avez des massifs de fleurs, vous avez des jardins multicolores. Voilà, c'est tout un ensemble. Après avoir fait ça, descendez un petit peu la Seine pour arriver aux plus belles boucles de la Seine. Alors maintenant, c'est plutôt une histoire de l'histoire des châteaux, l'histoire de France que je vais raconter. Rapidement, vous arrivez sur Château-Gaillard. Château-Gaillard, qui ça date de 800 ans, plus de 800 ans, 900 ans, bâti donc sur un éperon au-dessus du village d'Andelys, une des plus belles boucles de la France et une ruine extraordinaire. Il a été bâti par Richard Cœur de Lion à l'époque où la Normandie, elle s'étendait des Pyrénées jusqu'à l'Écosse. Et la France, c'était la taille d'un département actuel. Alors que maintenant, la Normandie, c'est un peu la campagne beurrée des Parisiens friqués. Parce que, bon, tous ces manoirs, toutes ces demeures, toutes ces chaumières, ça sent quand même le fric énormément. Alors Château-Gaillard, là, on remonte à l'époque donc, de Richard Cœur de Lion qui était le fils d'Henri II Plantagenet et d'Aliénor d'Aquitaine. Alors ça, c'est une histoire qui me plaît bien parce que ça mélange l'histoire de France, l'histoire d'Angleterre. Et puis, comme je suis déjà allé plusieurs fois en Normandie, notamment à Falaise, sur d'autres vidéos, vous la verrez, Falaise où naquit Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, ancêtre de Richard Cœur de Lion, qui était duc de Normandie et qui a conquis la couronne d'Angleterre après la bataille d'Hastings. Je vous conseille d'aller voir, entre parenthèses, la tapisserie de Bayeux, par là. Donc on en est à Richard Cœur de Lion, qui s'est frotté à Philippe Auguste. Tout le monde se souvient des cours d'histoire de l'école primaire, qui s'est frotté à Philippe Auguste. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tous les deux étaient partis en croisade. Philippe Auguste est revenu le premier. Philippe Auguste, c'est l'époque de Duguesclin, tout le monde se souvient de Duguesclin, avait bien envie de reconquérir la Normandie qui avait été donnée 200 ans plus tôt aux Vikings. Et donc, il avait bien envie de reprendre tout ça. Et il a commencé, alors que Richard Cœur de Lion n'était pas revenu de croisade, il a commencé à grignoter un petit peu. Lorsque Richard est revenu, il s'est dit, il faut barrer la route des Français à la Seine. Et en 2 ans, il a élevé Château-Gaillard. C'était un château extraordinaire. Donc Philippe Auguste en a fait le siège et le château est tombé en 2 ans. Il y a une petite anecdote, enfin une anecdote pour ceux qui l'ont vécu, c'était pas très bien. C'est ce qu'on appelle l'épisode des bouches inutiles. Les villageois du tour du château sont venus se réfugier des Français pour se mettre à l'abri dans le château. Et la garnison anglo-normande les a repoussés. Et les Français qui assiégeaient n'ont pas voulu les laisser passer. Donc ils se sont retrouvés entre les deux, dans les fossés, et ils sont morts finalement de froid et de faim. Voilà l'épisode des bouches inutiles. Ce château, magnifique château, a servi de carrière de pierre au XVIIe siècle. Depuis, les ruines, ben, les guides touristiques, ils les vantent comme les ruines romantiques de la Normandie. Et maintenant, ce château ne surveille plus que les péniches qui passent en bas et les Normands qui vivent sur les rives juste en dessous.
Mais n'empêche, c'est un très beau belvédère sur la Seine, en fait.
Ah, c'est un magnifique belvédère et c'est une boucle formidable. Alors là, par exemple, quand on parlait du mauvais temps, j'y suis revenu 3 fois, je l'ai dit en introduction, 3 fois pour arriver à faire une vue et faire voler mon drone. J'ai fait voler le drone au-dessus de ces ruines et en même temps, sur l'image, on voit tout le château avec la boucle de la Seine qui est juste en dessous. C'est une belle image. Voilà, il a fallu se la gagner. Dans cette histoire de château, un peu plus bas, en descendant la Seine, il y a le château de Robert le Diable. C'était le père de Guillaume le Conquérant. Donc là, on est 100 ans avant Richard Cœur de Lion. Et puis un peu plus loin, vous avez le château d'Arc, la bataille. Alors là, c'est encore une histoire des ducs de Normandie. Lorsque Guillaume le Conquérant hérite de son père, il avait 8 ans. Il y a eu de la régence, en grande partie son oncle. Et son oncle s'est approprié le château d'Arc, la bataille, qu'il n'a pas voulu rendre par la suite. Alors Guillaume le Conquérant, quelques années plus tard, a fait le siège du château de son oncle, donc. Il a récupéré ce château, mais c'était quelqu'un, ce Guillaume le Conquérant. Hein. Par la suite, bien sûr, il a franchi la Manche avec 600 hommes d'armes pour prendre le trône d'Angleterre. Voilà cette histoire. Et je vais vous parler maintenant, entre Giverny et Andelys, sous le château Gaillard, il y a une ville qui s'appelle Vernon. Elle a ce qu'on appelle le vieux moulin de Vernon. C'est une bâtisse, on n'en voit pas, j'en ai jamais vu d'autres en France comme ça. C'est un moulin qui était bâti à 8 mètres de hauteur sur les piles du pont. Le pont qui traversait la Seine, il y avait 7 arches et 7 moulins à 8 mètres de hauteur. D'une pile à l'autre, vous aviez un moulin équipé d'une roue horizontale. C'était la plus grande meunerie de France et peut-être même d'Europe. Et il reste un seul moulin qui est protégé maintenant et qui est considéré comme une des richesses.
On peut le visiter ?
On ne le visite pas, non.
D'accord.
Non, on ne fait que prendre des photos. Et il n'y a qu'un endroit pour prendre la photo, tout le monde fait la même. Mais il est si photogénique et si emblématique que la ville de Vernon l'a choisi comme symbole. Et alors là, Vernon, c'est le premier lieu qui est revenu dans le domaine de France. Lorsque Philippe Auguste a décidé de reconquérir la Normandie, il a commencé par prendre Vernon, place forte. Donc voilà pour Vernon.
On peut faire un circuit en voiture, par exemple, et passer d'un château, un village, un château, un moulin, etc.
Voilà, là, pour faire un petit circuit, vous commencez par aller à Giverny, comme je vous disais tout à l'heure. Vous descendez 10 km, vous arrivez à Vernon. Vernon, ça vaut le coup de s'y arrêter, allez, demi-heure pour prendre la photo et pour regarder. Puisqu'il n'y a plus que deux piles de pont avec un moulin au-dessus, il n'y a rien d'autre. Si ce n'est juste à côté, il y a le château des Tourelles. C'était un château donc, qui était là en protection de la région. Ensuite, il a servi de protection des moulins et aussi pour faire payer les taxes qu'il devait avoir pour passer le pont. Et par la suite, il est devenu silo à grains ou à farine. Voilà, donc vous voyez ça. Puis vous êtes à deux pas de Château Gaillard. Voilà le circuit. Vous descendez par l'autoroute, là, vous descendez, vous arrivez au château de Robert le Diable. La Normandie était très, très catholique et vous avez des édifices religieux de partout. Il y en a deux, on en parlera. Mais avant cela, dans les châteaux, je vais vous parler, on change d'époque, le château du champ de bataille à Neubourg. Alors c'est un château genre Versailles du XVIIe qui a été complètement dépouillé après le dernier conflit mondial, complètement vidé et certainement laissé en mauvais état. Et le propriétaire actuel, c'est un décorateur bien connu, Jacques Garcia, qui a eu les moyens de rééquiper, remeubler et de redécorer ce château dans les styles Louis XV et Louis XVI. C'est une merveille. On ne peut pas prendre de photos, c'est bien dommage à l'intérieur. Le château est richement meublé en vaisselle, en meubles, en tapisserie, en tout ce que l'on veut. Et à l'extérieur, les jardins, les fontaines, les jets d'eau, c'est un petit Versailles. Il est vraiment formidable. Et alors, je vous parlais tout à l'heure de patrimoine religieux. Deux, très près de la Seine que vous pourrez traverser par des bacs, cherchez pas les ponts, il y en a, mais il y a beaucoup de bacs, et c'est un peu nous qui ne sommes pas habitués à ça, c'est sympa, c'est assez folklorique, ça va assez vite, et bon, c'est... Et donc il y a deux superbes abbayes, la première c'est celle de Bec-et-Loin, et surtout c'est une abbaye bénédictine, elle a une tour millénaire qui est intacte, qui est très très belle, voilà, dans un parc, et au fond d'une boucle de la Seine, vous avez... Beaucoup vont connaître l'abbaye de Jumièges. Vous la voyez d'assez loin, avec des tours en calcaire blanc, là, d'une cinquantaine de mètres d'hauteur. C'est une ruine. Victor Hugo l'avait décrite comme la plus belle ruine de France et fortement marquée de romantisme. On reste ébahi devant ça. Alors, dans le domaine religieux, il y a à Lisieux, l'abbaye, édifiée en 25 ans, alors que d'autres monuments de ce style-là mettent presque 50 ou 100 ans à être bâtis. Bâti parce qu'une ferveur religieuse énorme qui a suivi les miracles de la Sainte. Et c'est le deuxième lieu de pèlerinage en France. L'intérieur peut recevoir 3000 fidèles. Il n'y a pas de colonne, donc tout le monde peut profiter de l'abbaye et de la basilique. Et surtout à noter les vitraux. Quand le soleil frappe, ça diffuse une lumière chaleureuse et propre au recueillement. Et puis il faut descendre à la crypte qui est en marbre blanc et en mosaïque. Voilà, ça fait un ensemble à ne pas rater ça. Hormis le fait de savoir si on est telle ou telle religion, j'estime que là, c'est pas religion, on va voir architecture, quelque chose. S'il y a tant de monde qui sont attirés par ça, il y a une raison. Et on est descendu un peu plus bas. On va faire une petite boucle, vous verrez sur la vidéo, vers la côte, le pays de Caux en particulier. Étretat, ça ne vous fait pas un gros détour. Tout le monde connaît Étretat, mais bon.
Mais il faut le voir.
Il faut le voir, et quand on y arrive, ces falaises blanches et ces petits cailloux gris. Alors, la lumière, parlons-en, parce que ce ciel très changeant, couvert de nuages, plus ou moins avec des rayons de soleil, quand vous êtes là-haut, que vous voyez les vagues avec cet océan ou la Manche, le Channel, disons-le, qui va du vert au gris et qui change sans arrêt. Voilà, on peut rester des heures sur les hauteurs ou en bas à se promener et à monter sur les falaises. Un vent pas possible, je suis allé deux fois à Étretat. Alors là, pas question de droner. Le truc surtout, c'est de rester debout et arriver à ne pas trop bouger pour faire une image nette. Ça, c'est pas facile.
Mais n'empêche, ouais, voilà, il faut aller voir Étretat. Ouais.
Il faut aller voir Étretat.
Ouais.
Alors, si vous descendez rive gauche de la Seine, vous tombez sur le pays d'Auge. Un des plus beaux villages de France, c'est Beuvron. Beuvron-en-Auge. C'est une carte postale. Hein, avec ses maisons à pente de bois et ses halles et ses manoirs qui sont disséminés dans la campagne.
C'est un village médiéval, c'est...
Non, c'est un village moderne de nos jours, gardé, conservé avec tout un tas de maisons d'époque, notamment pan de bois, comme je viens de dire, et chaumière. Une halle aussi, voilà. Alors, là, on est dans le pays d'Auge et on est très près de ce qu'on appelle le Marais Vernier. Alors, le Marais Vernier, il y a déjà le village qui s'appelle Marais Vernier, qui possède de nombreuses chaumières. Alors, l'image est d'Épinal de la Normandie, des chaumières entourées de haies avec des pommiers taillés à hauteur de tête de vache, de museau de vache, taillés bien plats. Et puis, il y a la route du cidre, il y a la route des chaumières. Nous, on s'y est trouvés, il y avait des fêtes du cidre un peu partout. Mais il faut savoir que les chaumières, ce n'étaient pas des maisons riches, c'était des maisons de pauvres, même à l'époque, qui étaient faites de paille, faites avec les matériaux du coin, de la paille, du bois et du torchis, de l'argile pour les murs, pour le torchis. Le Marais Vernier, c'est la première tourbière de France, 2000 hectares. Alors une tourbière, c'est une accumulation de matières organiques fossiles, essentiellement végétales. C'est un écosystème, c'est un puits à carbone. Et la tourbe donne un combustible qui chauffe moins bien que le bois et le charbon, mais bon, les gens s'en sont servis. La tourbière, celle-ci, là, en particulier, Marie Verrier, n'a pas été trop exploitée parce que bien souvent, lorsqu'on sort de la tourbe, ça devient des marécages, ça devient des étangs. Et là, ce n'est pas le cas. Sur des hauteurs, vous avez une vue d'ensemble. Vous allez voir des parcelles de terre tout en longueur qui s'appellent des courtils, c'est-à-dire jardins, ça voulait dire à l'époque. C'est des parcelles qui font quelques dizaines de mètres, 15, 20 mètres ou 40 mètres de largeur, mais sur un kilomètre de long. On n'en voit pas souvent ça. L'explication, c'est que, étant donné que c'était une tourbière et marécageuse, l'accès ne pouvait se faire que par l'extérieur. Et pour que tout le monde puisse avoir une bande de terre, ça a été découpé ainsi. Sinon, celui qui avait le terrain du milieu, il n'aurait pas pu y aller. Donc, voilà. Et puis surtout, le Marais Vernier, c'est un site de protection de la nature, aussi bien les oiseaux, migrateurs ou pas, et les espèces végétales. Alors, je vais vous parler maintenant de quelque chose d'assez improbable. Vous verrez une image sur la vidéo. Alors, j'en parle un petit peu, la vidéo.
Voilà, rappelle-nous un peu la vidéo.
Je rappelle le site Rando VTT Vidéo.
Et on clique sur...
Et vous cliquez sur Parfum de Channel. Parfum de Chanel, voilà.
Et là, on tombe sur la vidéo qu'en fait est en train de nous raconter plus ou moins là.
Donc, voilà. J'essaye de vous donner envie d'y aller.
Ouais. Bon, mais je crois que c'est réussi.
Dans ce domaine de tourisme improbable, à Louviers, la maison de la vaisselle cassée. Alors nous, on est arrivé un peu tard, parce que c'est une maison qui est habitée, bien sûr. La personne fait visiter sa maison l'été. Septembre, nous, elle était fermée, donc on ne peut la voir que de l'extérieur. Et par-dessus le portail, elle est complètement tapissée de bouts de vaisselle et de mosaïques. Alors, j'ai jeté un petit coup d'œil. Dans le jardin, la niche du chien, tout ce qu'on a pu voir, c'est tapissé. Alors ça fait un peu penser à... C'est à rapprocher de la maison Picassiette, c'est un peu le même genre, à Chartres. Dans cette catégorie d'art brut et naïf, vous avez aussi la maison de Selle-Quipin à Roquevert, ça c'est à côté d'Aubagne. Et puis vous avez la demeure aux figures à Dieulefit et l'arbre vert, j'en ai parlé il y a 2 mois, une vidéo dans les Vosges, l'arbre vert qui est à Barental. C'est des maisons formidables qui te déjantent. Ouais, et vous avez aussi le facteur cheval, c'est un petit peu ça, à Haute-Rive, voilà, Haute-Rive dans la Drôme.
Mais je crois qu'il faut vraiment le voir sur la vidéo, tu as fait des prises de vue où on voit vraiment, on se rend vraiment compte de cette maison-là.
J'ai fait une prise de vue de l'extérieur, puisque ouais. J'ai pas pu rentrer, mais on voit bien malgré tout qu'il y a des motifs, et puis c'est le temps passé et la passion de ce gars pour... faut être passionné. Alors, j'aurais pu parler, maintenant on arrive un petit peu sur la fin de l'émission, mais je vais dire un mot sur le château d'Harcourt. C'est un modèle médiéval. Il a un parc avec des arbres vénérables. Moi, je l'ai visité entre 2 averses. J'ai commencé à y aller sous la pluie. J'ai fait des images sous la pluie parce que je me suis dit, c'est foutu, on n'aura rien. Donc j'ai dit, tant pis. Et puis quand je suis revenu à la voiture, j'étais trempé comme un canard. Le ciel s'est déchiré. Ah, j'ai dit, on recommence. J'ai eu des images au soleil. Alors voilà. Ça, c'est le château d'Harcourt. Vous avez Crèvecœur en Auge. Alors, c'est une petite seigneurie que l'on visite. Ce qu'il y a, c'est que c'est la fondation Schumberger. C'était un brillant technicien, polytechnicien, qui avait mis au point des techniques électriques et de prospection minière, en particulier recherche de pétrole. Et dans cette fondation, vous avez l'énorme camion qui se déplaçait dans le Sahara en particulier, avec tout son matériel de prospection. Vous avez de la documentation, vous avez des petites vidéos. C'est la fondation Schumberger. Et puis, je vais dire un petit mot aussi sur le manoir d'Angot, qui possède un des plus beaux pigeonniers de France. Et Angot, c'était à l'époque de François Ier. François Ier lui avait donné l'autorisation, presque même un peu plus, l'avait bien aidé, à faire du commerce avec ses bateaux et de la piraterie. Il rançonnait et voilà. Et c'était un grand copain de François Ier. Ça a permis de faire la lutte un peu contre Charles Quint, avec qui il n'était pas d'accord, pas très copain. Et Angot a participé au paiement de la rançon lorsque François Ier, vous avez dû l'oublier, a été prisonnier à Pavie, contre une forte rançon. Angot a participé, grâce à sa piraterie, au paiement de sa rançon.
Et il lui a sauvé la vie, quoi.
Oui, mais François Ier, il a, en échange de sa liberté, il a donné ses 2 fils.
Ouais, c'est un bon échange. À cette époque-là, on ne se posait pas trop de questions.
Alors, prévoyez... Voyez, ça fait beaucoup de choses malgré tout, hein, et puis j'ai pas tout vu, j'en ai laissé, mais le temps passé. 8 jours, c'est pas de trop pour voir tout ça en s'arrêtant. Voilà, prévoyez 8 jours.
La période que tu conseilles ?
Oh, la période, moi je vous dis, c'était fin septembre. Je me disais, c'est un petit peu tard, septembre, les jours sont plus courts, et puis il vaut mieux y aller par beau temps. Donc... Mais en fait, moi ça s'est passé super bien malgré tout. Donc même allez-y, même fin septembre, c'est pas grave, pas de soucis.
D'accord.
Alors je termine par le VTT, une rando à Louviers qui s'appelle la Transsauvérienne. Je l'ai fait par beau temps. Par contre, moi j'ai regretté parce que c'était trop boisé. Il n'y avait aucun point de vue. Moi j'aime bien de temps en temps quand on débouche, faire des images de vélo qui passent devant moi avec un arrière-plan de... Voilà, un point de vue. Et là, c'est tout en sous-bois. C'est un petit peu dommage. Bon, voilà. Et je termine donc ma vidéo que je rappelle, Parfum de Chanel. La Haute-Normandie, vous en garderez un bon souvenir. Le mois prochain, nous découvrirons les Cévennes. Alors là, ça a tombé par terre. Celle-là, elle est belle, mais l'autre, vous verrez. En attendant, je vous dis bougez, mais bougez en France. À bientôt.